Bienvenue et bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer, c'est-à-dire à peu près tout le monde, ou presque, que vous soyez à la maison ou ici à Nord-116. Bonjour à chacun. Ça fait toujours plaisir ce rendez-vous dimanche après dimanche. Même si c'est un petit peu spécial, ce qu'on vit, la façon dont on vit les choses, ça fait toujours tellement plaisir d'avoir la semaine ponctuée par un moment où on se présente ensemble devant le Seigneur. Moi, ça réjouit mon cœur. À quoi sert le sabbat? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Pourquoi est-ce que le sabbat est si important pour Dieu? Et si c'est si important pour Dieu, pourquoi est-ce que Jésus, à chaque fois, un jour de sabbat, il vient mettre le pavé dans la mare? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Je vous propose de lire un texte qui se passe pendant le sabbat. Alors, comme depuis quelques semaines, on est dans l'évangile de Luc, je vais vous lire un texte dans le chapitre 13, les versets 10 à 17. Luc 13, les versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Quand le sabbat est mentionné, vous pouvez être sûr qu'il va se passer un truc. Mais à chaque fois quand vous lisez la Bible et puis que vous voyez Jésus un jour de sabbat, dites-vous, aïe. Qu'est-ce qui va encore se passer? Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Et voici, ça nous montre, là, on entre dans quelque chose, on entre dans une intrigue. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Voilà le contexte. On ne sait pas où elle est, cette synagogue. On ne sait pas dans quelle ville ou dans quel village. Mais ce qu'on sait, on en a parlé les dernières fois, c'est que Jésus, il a enseigné, il a prêché en Galilée. C'est comme ça qu'il a commencé son ministère pour attester que le royaume de Dieu était venu sur la terre et qu'il était le Messie qui établissait ce royaume de Dieu. Et pour attester ces choses-là, il faisait des guérisons, il délivrait des gens qui attestaient que ce qu'il disait était vrai. Et au chapitre 9, on en a un tout petit peu parlé la semaine passée, il y a eu cet épisode de la transfiguration. Jésus est monté sur une montagne, il avait 3 disciples avec lui, et à un moment donné, quand il a été transfiguré, il était en présence de Élie et Moïse, et il parlait de son prochain départ pour Jérusalem, de son prochain départ de Jérusalem vers le Seigneur. Et au chapitre 9, toujours, le verset 51, le verset nous dit, Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Et depuis ce moment-là, Jésus part pour Jérusalem et il est suivi d'une grande foule parce qu'il attire les gens, il a des discours qui interpellent en même temps, il fait des guérisons, des délivrances. Donc, tout le monde accourt pour être guéri, mais ils veulent tous l'entendre. Ils veulent savoir, mais c'est qui cet enseignant qui a des paroles dont on n'a pas l'habitude et qui parle avec autorité et qui commande les éléments et lui obéissent. Alors, il y a une énorme foule qui le suit. À tel point qu'il va dire que le Fils de l'homme n'a pas un seul endroit où il puisse reposer sa tête. Ça, en fait, ça devient de plus en plus corsé. C'est comme si Jésus, il n'est jamais seul. Il y a toujours du monde. Il est interpellé, il est questionné. Il est toujours en interaction. Et c'est comme ça qu'il va de village en village, de ville en ville, et qu'il entre dans les synagogues et qu'il prêche, que ce soit en plein air ou que ce soit dans les synagogues ou dans les maisons. Il fait très peu de miracles pendant ce trajet jusqu'à Jérusalem. Pendant ces 10 chapitres, de Luc 9, 51 à Luc 19, tout ce voyage-là, il fait très, très peu de miracles. Mais il enseigne, il est facilement pris à partie, et lui aussi, des fois, il est presque provocateur. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'en Galilée, c'est surtout les chefs des pharisiens, c'est surtout les religieux qui s'opposaient à lui. Mais toute la foule était pour lui. Toute la foule accourait pour être guérie. Et plus on se rapproche de Jérusalem, plus l'esprit religieux se fait sentir et moins on sent la différence entre les pharisiens et la foule. De plus en plus, c'est un peu tout mélangé et la foule est de plus en plus sceptique où on voit en fait que ça se mélange et que c'est de plus en plus difficile à distinguer. Alors les interactions se corsent. Et Jésus va toujours plus loin dans le message qu'il veut faire passer. C'est plus seulement de la guérison, mais c'est des enseignements très précis et toujours plus profonds. Alors, le texte que je viens de vous lire, il se situe entre deux paraboles. Jésus donne une parabole, ensuite il est question de cette femme courbée qui est guérie, et ensuite il repart dans d'autres enseignements. C'est comme une petite parenthèse de guérison, mais une guérison avec un message. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se relever. Cette femme, c'est comme si elle avait un gros sac de montagne sur les épaules. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de partir en montagne ou d'aller faire une excursion. Vous avez plusieurs heures de marche devant vous. Alors, vous prenez tout ce qu'il faut. Vous prenez un t-shirt de rechange, vous prenez un pique-nique, vous prenez beaucoup d'eau, ça pèse, mais le temps est incertain, alors vous prenez encore un imperméable, et puis il y a des moments où il va faire chaud ou froid, alors vous prenez encore une couche supplémentaire, puis vous bourrez le sac, un couteau suisse, ça peut toujours servir. Et si vous allez sur un glacier, il y a encore le piolet, le baudrier, il y a encore la corde, et ça pèse. Et ce sac, quand vous le mettez sur les épaules, c'est très difficile de se tenir droit, parce que ce poids, il pèse. Alors, pour pouvoir le maintenir, vous vous penchez en avant. Alors, si Raymond m'écoute, il va se dire, mais non, moi, je me tiens droit. Bien sûr, il y a des gens qui sont plus musclés que d'autres. Mais moi, je sais que si j'ai un sac à dos, je vais me pencher en avant pour compenser. Parce que le poids, c'est un poids qui est trop lourd pour moi. Et ça va me pencher en avant et je n'aurai pas la force de me redresser. Eh bien, c'est la même chose pour cette femme. Cette femme, elle était liée par Satan d'un esprit qui la rendait infirme, qui l'empêchait de se relever. Elle était oppressée, elle avait une oppression sur elle qui la tenait courbée. Là, ça la tenait courbée physiquement. Mais parfois, quand on a un poids, une oppression sur nous, ça peut nous tenir courbés physiquement ou psychologiquement ou de toutes sortes de manières. C'est quoi une oppression spirituelle? Puisque c'est de ça qu'il s'agit dans ce texte. Une oppression spirituelle, ça peut se décliner sous toutes sortes de formes différentes. Ça ne va pas être le thème du message, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Mais il peut y avoir, par exemple, un esprit d'aveuglement qui fait que la personne manque de discernement. Alors, elle fait pas les bons choix. Ou ça peut être des pensées qui sont toutes brouillées, un esprit de confusion qui fait que les personnes n'arrivent pas à voir clair dans leur propre vie. Il y a aussi des esprits qui font que ça perturbe les relations. C'est des personnes qui sont toujours en conflit, qui, peu importe, qui changent d'environnement, il y a toujours des conflits qui se font. Il y a aussi des oppressions qui se passent pendant la nuit, pendant le sommeil. Il y a des oppressions qui se font au niveau sexuel. Il y a des oppressions qui peuvent se faire de toutes sortes de manières. Et ça engendre des insomnies. Ça engendre justement des conflits qui reviennent. Ça engendre des gens qui vont se dire, ben voilà, l'Église ne peut pas me donner ce que je cherche, je pars, je claque la porte, parce que la personne n'a pas compris, mais qu'est-ce que Dieu veut? Parce qu'il y a des choses qui sont fermées, il y a des choses qui sont bloquées. En fait, il peut y avoir énormément de répercussions qui font qu'on est bloqué dans notre marche de tous les jours, qu'on est bloqué dans notre fonctionnement, qu'on est bloqué dans nos relations, qu'on est bloqué dans nos émotions, dans nos sentiments. En fait, ça affecte notre vie et ça nous courbe et on n'arrive pas à se relever. Voilà, voilà l'état de cette femme. Jésus, il a vu la condition de cette femme. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Encore une fois, Jésus pose son regard sur quelqu'un. Il y a 2 semaines, on avait cette histoire des 2 cortèges qui se croisaient. Le cortège de Jésus qui croise un cortège funèbre avec une femme veuve qui venait de perdre son fils unique. Et Jésus a vu cette femme, il a vu toute sa condition et il a ressuscité son fils. Et bien là, Jésus, il est dans une synagogue, il y a plein de monde. Avec tous les gens qui sont toujours avec lui, je me dis peut-être même qu'il y avait du monde à l'extérieur. Est-ce que la synagogue pouvait contenir toute cette foule? J'en suis vraiment pas sûre. Les femmes, elles sont dans un endroit en retrait. Elles ne peuvent pas être mélangées avec les hommes dans la synagogue. Et Jésus, quand il promène son regard sur l'assemblée, il ne regarde pas les notables, il ne regarde pas les riches, il ne regarde pas les chefs religieux, il ne regarde pas les intellectuels, il ne regarde pas ceux qui ont réussi, il ne regarde pas ceux qui sont de la bourgeoisie. Qui c'est qui regarde cette femme qui est courbée puis qui ne peut pas se relever et qui est oppressée spirituellement? Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, tu es délivrée, déliée de ton infirmité. Il est en train de lui dire, les liens spirituels qui t'ont oppressé jusqu'à maintenant sont brisés et tu es libre. C'est une parole d'autorité. Et pour attester que c'est fait, il va vers elle, il lui impose les mains et tout de suite, elle est guérie et elle éclate en chant de louange. Jésus voit la personne. Il donne une parole d'autorité et parce qu'il est Dieu et parce qu'il a toute autorité et légitimité, il atteste qu'il est Dieu, qu'il est le Messie et il offre la délivrance et la guérison. Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas puissant? L'histoire, elle pourrait s'arrêter là. Mais non. Alors c'est bien maintenant de se dire, mais est-ce que par hasard, je porterais un sac à dos? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui me fait ployer sous un poids? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me freine dans ma course? Je pense que c'est bon qu'on se dise, mais moi, est-ce que je suis debout, complètement redressée en éclatant en louange? Est-ce que j'ai été pleinement touchée par le Seigneur ou est-ce que j'aurais besoin qu'il pose son regard sur moi et qu'il me donne une parole d'autorité qui me redresse? Mais il y a quelque chose de plus à comprendre. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais, le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dites à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Mais en fait, c'est vrai. Mais en fait, il y a 6 jours. Il y a 6 jours pour travailler, 6 sur 7. Pourquoi est-ce que Jésus choisit le 7e pour faire cette guérison? Pourquoi scandaliser les gens? Dans la tradition juive, le jour du sabbat, on avait le droit de porter secours à une personne qui était en danger, une personne malade par exemple. On avait le droit de porter secours, mais seulement si la personne était en danger de vie ou de mort. Donc seulement si la personne était à l'extrémité. Cette dame, ça faisait 18 ans qu'elle était atteinte, alors un jour de plus, un jour de moins. Franchement, c'est quoi le sabbat? Pourquoi il est indigné, ce chef? Moi, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui font qu'il est indigné. Ben, déjà, il ne s'adresse pas à la femme. Il n'est pas en train de dire à la femme, mais tu aurais quand même pu aller vers Jésus un autre jour. Non, non, non. Il s'adresse à tout le monde. Venez vous faire guérir un des six jours. En fait, en s'adressant à tout le monde, c'est juste parce qu'il n'a pas le courage de s'adresser à Jésus. C'est un message subliminal parce que c'est à Jésus qui dit, non, mais tu te prends pour qui? C'est vraiment ce qu'il est en train de dire. Parce que le sabbat, il vient d'où le sabbat? Il a été institué par Dieu. Mais cette loi, il l'a donnée à qui? Il l'a donnée à Moïse. Et on commence à entendre parler de ce sabbat depuis la Genèse. Quand Jésus a fait la création en six jours, il sanctifie le septième où il se repose de ses œuvres. Et ensuite, c'est repris dans la loi de Moïse. Alors, c'est comme si Jésus se faisait plus grand que Moïse, plus grand que la loi qui a été donnée à Moïse, plus grand que Moïse, donc il se fait Dieu. C'est insupportable. Pour ce chef pharisien, c'est insupportable. C'est insupportable parce qu'il ne veut pas reconnaître la messianité de Jésus. Mais en plus de ça, il n'a pas compris ce qu'est le sabbat. Alors pour ça, je vous propose de lire deux textes où il est question du sabbat, justement dans la loi de Moïse. On dit la loi de Moïse, mais on est bien d'accord, la loi que Dieu a donnée à Moïse. Et il faut bien comprendre dans le contexte juif, cette loi, c'était leur code civil, c'était leur code juridique. C'est le code juridique de l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc c'est vraiment extrêmement important. Exode 20, à partir du verset 8. En fait, on est dans les 10 commandements. Parce que l'institution du sabbat, la loi du sabbat, est le 4e commandement. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il y a un lien avec ces 6 jours de création. Mais réfléchissez, est-ce que Dieu n'a plus rien fait le 7e jour? Il a contemplé, mais est-ce qu'on n'est pas encore dans ce 7e jour? Est-ce que Dieu ne fait plus rien? Est-ce que Dieu n'agit plus? Bien sûr qu'il agit, mais différemment. En fait, c'est vrai qu'il a contemplé. En fait, pendant 6 jours, Dieu a créé. Il a fait une création merveilleuse qui fonctionne parfaitement. Dans ces 6 jours, il a créé l'homme et la femme. Et il bénit le 7e jour parce que c'est quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qui doit se passer pendant le 7e jour? Eh bien, c'est profiter de cette magnifique création, de l'harmonie qui y règne, c'est profiter de la relation bénie, sans tâche, sans intermédiaire, sans difficulté entre l'homme et Dieu. C'est une harmonie totale et parfaite. C'est continuer d'être actif, mais différemment, dans une harmonie bienfaisante et parfaite. C'est ça, ce 7e jour. Mais il y a eu la chute. Et cette harmonie, elle a été brisée. Et Dieu continue d'être actif. Mais il ne crée plus comme il a fait ces 6 jours de création. La création, elle fonctionne. Il intervient dans sa création. Mais il n'est plus en train de rajouter des jours de création. Ça, c'est un élément. Et dans ce texte, le mot travail, c'est vraiment le mot ouvrage. Il y a 6 jours pour faire ton ouvrage, pour faire les choses que tu dois faire dans ta semaine. Et ce 7e jour, souviens-toi que le 7e jour, c'est un moment que tu dois consacrer pour être en harmonie avec Dieu, même si tu es dans une activité. Ne fais pas la même que tu fais pendant les 6 jours. Ça, tu le mets de côté. Tu te reposes de ça. Mais profite de ce 7e jour pour être dans la paix, dans le repos de ton âme et dans un cœur à cœur, dans une intimité avec Dieu. C'est ce qu'on célèbre lors de nos cultes hebdomadaires. Il y a un 2e texte qui parle du sabbat, qui est toujours le 4e commandement, qu'on trouve dans le Deutéronome, au chapitre 5. Deutéronome 5, les versets 12 à 15. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Cette fois-ci, le lien, ce n'est plus avec la création, mais c'est avec la période d'esclavage en Égypte. Et là, c'est comme si les 6 jours de la semaine, au niveau du travail, il y a un parallèle, ils sont apparentés aux 400 ans d'esclavage que le peuple hébreu a vécu en Égypte. Et ce mot « travail » ou « ouvrage », ce n'est pas le même que dans l'autre texte que nous avons lu, c'est le mot « avad » qui veut dire « travailler, servir », et c'est de là que vient le mot « eved » qui veut dire « serviteur, esclave ». Donc ça veut dire pendant 6 jours, tu es serviteur, esclave de quelque chose ou de quelqu'un, mais le 7e, tu te reposes. Parce que le 7e, c'est le jour de la libération. Le 7e jour, c'est quand je t'ai fait sortir d'Égypte. Ça veut dire pour nous, le 7e jour, c'est quand Jésus est venu, qu'il a accompli son œuvre de rédemption à la croix, que nous l'avons reçu en nous, que nous lui avons donné notre vie et que nous vivons en nouveauté de vie. Le 7e jour, c'est aussi le 7e jour prophétique eschatologique, c'est-à-dire des temps de la fin, du jour où Jésus reviendra nous chercher, et là nous entrerons pleinement dans le 7e jour de la totale libération. Nous serons libérés de nos corps qui sont limités, nous serons libérés de cette nature de péché qui nous tient encore captifs. Ça, ce sera le dernier 7e jour. C'est vers ce 7e jour que tout pointe dans la parole de Dieu. Voilà ce qu'est le sabbat. Et je crois que ce chef de la synagogue, il n'avait pas compris. Pour lui, c'était, tu travailles 6 jours, tu es actif 6 jours, mais le 7e, tu ne fais plus rien, tu ne bouges plus. Tu as juste le droit de te déplacer un petit peu, mais pas plus, pas un pas de plus. En fait, il se mettait sous une nouvelle servitude. Une servitude pendant 6 jours, une autre servitude pendant 1 jour. Et c'était comme ça toute la vie. Et il mettait des poids sur les autres. Il mettait des fardeaux sur les autres parce qu'il disait, on ose faire ça, on n'ose pas faire ça. Tu dois, tu ne dois pas. Tu as le droit, tu n'as pas le droit. C'est des charges et des charges. Et sur eux, ça met aussi des charges et ça les crispe, ça les rend vides de Dieu. Ça change complètement le plan de Dieu pour lequel il a mis ses lois, pour lesquelles il nous les a données. Et pourtant, le jour du sabbat, ils font quand même des activités. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Eux aussi, ils faisaient un travail. Ils allaient détacher leur bétail pour leur donner à boire. Ça demande aussi du travail. Mais parce qu'ils savaient que, surtout avec les grosses chaleurs, si pendant 24 heures ils ne leur donnent pas à boire, ils risquent de perdre du bétail. Alors ils prenaient surtout pas ce risque-là. Alors pourquoi, si on délivre, si on délie, si on détache un bœuf et un âne, on ne peut pas délivrer, délier, détacher une femme? Et c'est ce que Jésus dit. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Pourquoi c'est le jour du sabbat qu'il fallait délivrer cette femme? Eh bien, dans le texte grec, il y a énormément de jeux de mots, parce que depuis le début, il est question d'une femme qui est liée par un esprit. Et Jésus, il dit, votre âne et votre bœuf, vous le déliez pour aller boire. Mais cette femme, elle est liée depuis 18 ans. Est-ce qu'il ne fallait pas la délier? C'est un peu toujours ce mot qui est utilisé dans tous les sens où on peut l'utiliser pour bien expliquer. Mais quand quelqu'un est sous l'oppression de Satan, Satan qui représente l'esclavage, Satan qui représente le péché, Satan qui représente l'oppression, les problèmes, la séparation d'avec Dieu, est-ce que ce n'est pas le jour de la délivrance qu'il faut délivrer ces gens-là? Est-ce qu'il ne faut pas mettre un geste prophétique pour dire « Aujourd'hui, c'est le jour du salut, alors aujourd'hui, au nom de Jésus, tu es délivré de tes liens ?» Ou est-ce qu'il fallait faire ça pendant les 6 jours de servitude, d'esclavage? Est-ce qu'il ne fallait pas faire cette guérison le jour où Dieu veut une harmonie parfaite avec sa création et ses créatures? Puisque c'est ce qui veut nous redonner ce qui nous a été volé. Jésus est venu sauver ce qui était perdu. C'est vraiment le thème de Luc. Alors, est-ce qu'il ne faut pas sortir de nos schémas rigides, de nos schémas mis dans des boîtes, pour pouvoir vivre pleinement ce que le Seigneur a prévu? Combien de fois nous sommes plus religieux que le Seigneur? Le Seigneur, il ne l'est pas. Combien de fois nous sommes pharisiens pour nous-mêmes et pour les autres? Et parfois, on ne se rend même pas compte que c'est aussi pour les autres. Je crois qu'aujourd'hui, ce que le Seigneur veut, c'est nous guérir. Ce que le Seigneur veut aujourd'hui, c'est nous libérer. Ce que le Seigneur veut aujourd'hui, c'est qu'on comprenne ses principes. Il veut qu'on comprenne si on n'est pas en train de porter un sac à dos. Il veut qu'on comprenne si on n'est pas un peu pharisien sur les bords. Et ce pharisaïsme, je ne sais pas comment on le dit, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce que ce n'est pas justement un lien qui doit être brisé? Qu'est-ce qui brouille nos schémas? Qu'est-ce qui brouille nos pensées? C'est quoi ces esprits de mensonge qui nous font croire des choses qui sont fausses? Ces esprits de mensonge qui font qu'on se déprécie? Ces esprits de peur qui nous tiennent toujours dans la crainte ou dans la timidité? Ces esprits qui font qu'on est toujours en colère et qu'on n'arrive jamais à être réconcilié, qu'on n'arrive jamais à être dégagé et aimer notre frère, notre sœur, le recevoir, l'aimer. Ces esprits qui font qu'on est toujours en train de juger, qu'on n'arrive pas à mettre un frein à notre langue, qu'on a besoin de se justifier plutôt que de bénir et de chercher l'intérêt dans le cœur de l'autre plutôt que mon intérêt. Est-ce que aujourd'hui, on n'a pas un sac à dos qui commence à peser, puis ce serait le moment qu'on coupe les bretelles? Ces liens-là, ces liens qu'on a à nos épaules, est-ce qu'on ne pourrait pas les couper, que ce sac qui tombe et qu'on ne puisse même plus le reprendre? Moi, je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire. Et il choisit exprès le jour du sabbat. Il choisit exprès le jour du repos pour nous dire, mais ce que je veux, c'est te délivrer complètement. Je veux que tu sortes de ces 6 jours d'esclavage, de servitude. Je veux que pendant 6 jours, tu fasses un ouvrage qui soit saint, qui soit béni, en harmonie avec moi. Mais la mentalité du 7e jour, je veux que ce soit toute la semaine. mais marque-le toutes les semaines, tous les dimanches, puisque dans notre société, c'est le dimanche. Mais marque-le toutes les semaines, prophétiquement. Vis le culte avec tes frères et sœurs toutes les semaines. Parce que prophétiquement, tu es en train de dire, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le septième jour. Aujourd'hui, par la foi, j'entre dans le septième jour de la délivrance. Je vous propose de prier. Seigneur, tu sais. Seigneur Jésus, tu sais quels sont nos fardeaux, tu sais quels sont les sacs à dos que nous sommes en train de porter. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin que tu viennes couper les bretelles de ce sac à dos, couper les lanières. Je te demande par ton Saint-Esprit de te mouvoir. Je te demande de te mouvoir maintenant dans les cœurs, dans les pensées de chacun d'entre nous, que ce soit à la maison, que ce soit ici à Nours-en-Cèze. Je te demande, Seigneur, un esprit de révélation, de conviction, qui puisse dénoncer ces esprits qui tiennent mes frères et sœurs captifs ou qui me tiennent captive. Seigneur, je te demande de délivrer des personnes qui sont sous une oppression qui leur crée des insomnies. Dans le nom de Jésus-Christ, je brise les œuvres du malin qui tiennent des gens captifs dans l'insomnie. Je délie ces liens au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont prises par des esprits de pharisaïsme et je les dénonce devant Jésus-Christ. Et j'invoque la toute-puissance du nom de Jésus-Christ sur ces esprits-là et je les lis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de faire une œuvre de salut, une œuvre de délivrance, que chacun puisse recevoir la délivrance dont il a besoin, que chacun sache se positionner dans la foi, prendre autorité et proclamer sa guérison et sa délivrance en ton nom puissant. Parce que tu as vaincu à la mort, à la croix de Golgotha. Ton sang a coulé, tu t'es offert en sacrifice, tu t'es fait péché, tu t'es fait oppression spirituelle, tu t'es fait pauvreté, tu t'es fait malédiction, tu t'es fait maladie, tu t'es fait oppression. Alors je condamne et je dénonce tout esprit de mensonge qui tient mon frère ou ma sœur captif. Je dénonce l'orgueil. Je dénonce les perversions sexuelles. Je dénonce la pornographie. Je dénonce tout ce qui tient mes frères et sœurs captifs. Je dénonce tout ce qui entraîne de la cupidité. Dans le nom de Jésus-Christ, je dénonce ces esprits devant Jésus et devant sa croix. Vous avez été vaincus à la croix. Je dénonce tout ce qui oppresse mes frères et sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Et je proclame aujourd'hui la délivrance, le septième jour, le jour du salut. Jésus, je te remets chaque personne. Je te demande de rejoindre chacun dans ce qu'il vit. Relève et guéris. Restaure encore les cœurs. Restaure encore les âmes. Restaure encore les esprits. Je te demande que chaque vie, chaque famille, chaque personne soit restaurée. Restaure, Seigneur, les compréhensions. Renouvelle l'intelligence de chacun. Restaure les cœurs. Que ton onction vienne, Saint-Esprit, que ton huile vienne et guérisse encore. Que chacun puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que tu puisses occuper les pensées de chacun, que tu puisses occuper le sommeil de chacun, que tu puisses occuper les yeux de chacun, que tu puisses occuper les mains de chacun, que tu puisses occuper les entrailles, le cœur de chacun, que tu puisses occuper les motivations de chacun. Jésus, sois formé, sois édifié en chacun d'entre nous. Viens à notre aide, Seigneur, on a tellement besoin de toi. Mais je te remercie parce que c'est l'œuvre que tu fais. C'est ton œuvre du salut. Commence par nous, Seigneur. Commence par ton Église. Commence par les gens que nous sommes ici à la maison ou à Nours-en-Cèze. Commence par ton Église. Et que ça attire d'autres, qu'ils voient la transformation dans nos vies pour que d'autres aient soif et faim de te connaître et d'être délivrés. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus-Christ, Dieu vivant. Merci, Saint-Esprit. Toi seul es Dieu. Toi seul es roi des rois et roi de gloire. À toi toute l'autorité, à toi le plus grand nom. Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur, Prince de paix, Lion de Juda, gloire à toi. Amen. Amen. N'en restez pas là. N'en restez pas là, mais soyez actifs. Là, on a ouvert une porte. On a ouvert une porte, mais allez plus loin. Moi, ce que je vous propose, soyez actifs dans votre délivrance. Soyez actifs dans votre combat. Dans le nom de Jésus-Christ, prenez autorité. Prenez autorité si vous êtes concerné par des esprits que vous avez pu identifier. Si vous n'avez pas pu les identifier, demandez au Saint-Esprit qu'il le fasse. Demandez-lui, mais c'est quoi? C'est quoi la racine? C'est quoi cet esprit qui m'oppresse? Moi, je le dénonce devant toi. Montre-moi comment le combattre. Et ensuite, combattez-le. Dans le nom de Jésus, je te lie, je t'empêche d'agir dans ma vie. Je te lie, ça veut dire je t'attache, je te bâillonne, je t'empêche de parler et je t'ordonne, tu sors de moi dans le nom de Jésus-Christ. Ayez des moments comme ça quand vous êtes en prière. Mais aussi, allez trouver un frère ou une sœur en qui vous avez confiance. Et confessez-vous. Trouvez quelqu'un à qui vous pouvez dire « J'ai tel problème. J'ai tel problème, j'en ai honte. J'essaye de m'en sortir parce que je ne le veux pas, mais je me rends compte que je n'y arrive pas. Est-ce que tu peux prier avec moi ?» Ce n'est pas un truc qu'on fait à la va-vite. Ce n'est pas juste comme ça, à la fin du culte, tu peux vite prier pour moi, puis paf. Bien sûr que c'est des choses qu'on peut aussi faire, mais mûrissez-le. Mûrissez-le pour que, à l'intérieur de vous, vous commenciez à vraiment dire, mais cette fois, je n'en peux plus et je ne le veux plus. Faites mûrir cette hargne, cette sainte colère qui dit, maintenant ce problème, je ne le veux plus et il va sortir. Travaillez-le jusqu'à ce que vous dites, mais c'est maintenant. Et vous allez chercher quelqu'un et vous prenez un vrai temps de prière et vous priez, vous intercédez et vous chassez ces choses-là. Vous brisez les jougs. C'est l'autorité que le Seigneur Jésus nous a donnée. Moi, je vous encourage à vivre ça si vous êtes concerné par ces choses-là. Je m'arrête, sinon on y sera encore demain. Merci Seigneur. Merci au Seigneur pour sa grâce, parce qu'il nous a donné, tout. Tout. Il nous a dit que tout pouvoir lui avait été donné. Et il nous a dit qu'on ferait des choses encore plus grandes que ce qu'il a fait lui. Ça veut dire qu'en lui, nous avons aussi le pouvoir et la puissance pour chasser ces choses-là. Lui, il les chasse avec le doigt de Dieu. Tchac! Et c'est dehors. L'ennemi devant Jésus, il est petit. Tchac! Le doigt de Dieu. Alors je vous souhaite un bon sabbat, un bon dimanche de délivrance. Amen.